France Inter. Prenez la parole à tout moment sur l'appli Radio France.
France Inter, il est 13h. Voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. Critiqué, boycotté, le festival d'Angoulême va-t-il tout simplement être annulé? Le scénario devient de plus en plus probable alors que les grandes maisons d'édition prennent la parole à leur tour. Le grand rendez-vous de la BD, disent-elles, ne peut pas se tenir en janvier prochain, mais les organisateurs démentent cette annulation qui serait lourde de conséquences, on le verra, pour le secteur, mais aussi pour la ville de Charente. Il y a de l'amiante dans les murs de leurs écoles et ils estiment leur santé en danger. On parlera de cette plainte déposée par une cinquantaine de parents d'élèves et d'enseignants de Marseille. Leur avocate sera notre invitée dans ce journal. On parlera aussi de l'industrie agroalimentaire qui fait tout pour promouvoir les aliments ultra transformés. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Et ce sont les scientifiques qui lancent cette alerte.
Oui, 43 scientifiques du monde entier qui synthétisent ce matin les méfaits de ces aliments pour la santé et qui dénoncent surtout le lobbying, les pressions de cette industrie de l'ultra transformé aux méthodes comparables à celles du tabac.
Et on reviendra sur tout cela en détail avec vous, Rémi, dans les prochaines minutes. À suivre également la taxe foncière qui va augmenter pour plus de 7 millions de logements. On va tenter de comprendre de quoi il s'agit. À 13h30, comment se protéger des drones alors que les survols de sites sensibles se multiplient en France et en Europe. On va en parler avec nos invités et avec vos questions. 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. On ira aussi dans la deuxième demi-heure visiter l'île de Stromboli en Sicile que des habitants veulent redynamiser. Et puis on écoutera David Bowie, Modern Love, c'est le choix de la comédienne et réalisatrice Lola Bessis.
C'est une chanson en apparence très entraînante, mais on sent musicalement la mélancolie. Quand on regarde les paroles, en fait, ça parle de quelqu'un de désabusé, qui trouve que le monde va à sa perte, que les gens n'ont plus de valeur. Il n'y croit pas, mais il essaye. Il dit I try, parce qu'en fait, il n'y a que ça à faire.
Voilà, il faut toujours essayer. La réalisatrice Lola Bessis au micro de Frédéric Pommier, dans une chanson pour nous emmener à 14h. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
200 000 visiteurs, des dizaines d'auteurs et d'autrices dans la compétition officielle et des récompenses qui donnent toujours un coup de fouet aux ventes dans les librairies. Voilà, dessiné en quelques traits le festival d'Angoulême, l'un des plus grands événements mondiaux dans la bande dessinée et qui semble aujourd'hui plus que jamais menacé. Bonjour Marco Kefelec. Voilà plusieurs semaines que la société organisatrice est au cœur de la polémique, accusée d'opacité financière, de dérive mercantile. Plusieurs auteurs avaient pris la parole, un appel au boycott avait été lancé. Et cette fois, ce sont les grandes maisons d'édition qui entrent dans le débat.
Oui, une édition 2026 est tout simplement irréaliste, selon le syndicat qui rassemble les poids lourds de l'édition BD. Je viens de joindre son président, Benoît Paulet, par ailleurs directeur général de Glénat.
Nous, on estime que si les autrices et les auteurs ne viennent pas, les maisons d'édition ne sont pas en capacité de fournir un programme qui satisfasse les festivaliers. Partant de là, on pense que cette édition ne peut plus se tenir.
On comprend cette décision a pour vocation de soutenir leurs auteurs qui boycottent. Parmi eux, Jean-David Morvan, qui se félicite de cette prise de position sur France Info.
Un communiqué où on parle des auteurs, c'est très bien, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde gesticule dans tous les sens pour essayer de trouver une solution, ce qui est très bien, mais en fait, sans l'accord des auteurs, ça n'aura pas plus lieu que si on gesticule pas, en fait.
Des auteurs et autrices vent debout contre la société 9e Art Plus, aux manettes du festival depuis 2007, et accusés de mauvaise gestion managériale, artistique et financière. Mais sans auteur ni éditeur, pas de dédicace, pas de stand, peu ou pas d'exposition cet hiver à Angoulême, dont l'activité économique dépend beaucoup de cette manifestation. Pourtant, les organisateurs démentent l'annulation. Des réunions sont en cours, des concertations sont prévues la semaine prochaine. Le ministre de la Culture se dit, lui, d'autant plus mobilisé pour sauver l'édition 2026. Il veut même en faire l'année de la refondation.
Bon, le suspense continue, on l'a compris grâce à vous, Margot Kefelec, sur le sort de ce festival d'Angoulême. Et puis, autre institution bousculée toujours dans le domaine de la culture, le musée du Louvre, qui est sous le feu des critique depuis le spectaculaire cambriolage réalisé il y a un mois jour pour jour. Et ce matin, bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
La présidente Laurence Descartes a annoncé de nouvelles mesures de protection lors d'une audition à l'Assemblée nationale.
Oui, 100 caméras de vidéosurveillance seront installées aux abords du musée d'ici la fin de l'année prochaine et un poste de la police nationale va ouvrir au sein du Louvre. Audition fleuve de plus de 2 heures devant les députés pour Laurence Descartes.
Le Louvre a beau être le plus grand musée du monde, une merveille nationale qui abrite d'innombrables chefs-d'œuvre, il n'en est pas moins fragile. Je veux aussi, au travers d'une nouvelle organisation, insuffler une véritable culture de la sûreté dans l'ensemble de l'établissement.
Elle annonce la mise en place de plus d'une vingtaine de mesures d'urgence au musée qui seront déployées dans les prochains jours comme un poste de coordinateur sûreté chargé d'analyser et d'anticiper les risques. Les députés ont également interrogé la directrice du Louvre sur cette nouvelle faille de sécurité. Deux jeunes amateurs de canulars sur TikTok ont accroché la semaine dernière une fausse œuvre d'art à quelques mètres de la Joconde. Laurence Descartes relativise.
Il y a 2 ans, c'était des activistes. Nous avons constamment des interventions dans les salles du Louvre. Les équipes de surveillance ont réagi, mais on est très vigilant, et ce sera l'une des responsabilités du coordinateur sûreté, que cette analyse permanente de l'évolution des modes opératoires.
Laurence Descartes reconnaît aussi, chiffre à l'appui, une baisse des effectifs consacrés à la sécurité. « Je n'ai pas la liberté de recruter autant que je le voudrais », regrette-t-elle.
Merci Victor Vasseur, service culture, écran de France Inter. Ils sont parents d'élèves, enseignants, employés municipaux. Ils s'apprêtent à porter plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Une 50aine de personnes saisissent la justice, s'estimant exposées au risque d'amiante dans les écoles des Bouches-du-Rhône. Bonjour Julie Andruf.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Dans le 13-14, vous êtes l'avocate de ces plaignants. Alors pourquoi cette action lancée aujourd'hui? Quelle a été finalement le déclic?
Ben, en fait, c'est vrai que c'est une plainte qui est unique en son genre parce qu'elle va regrouper des syndicats, des associations, des parents d'élèves, des personnes physiques qui veulent aujourd'hui révéler une catastrophe sanitaire peut-être à venir si rien n'est fait. Et ils ont voulu mettre en évidence les défaillances des collectivités territoriales qui sont propriétaires des locaux.
Alors, quand on parle de locaux, on parle de 12 établissements scolaires différents. Est-ce que c'est de tout niveau? Est-ce que c'est dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône ou sont-ils situés?
Mais en fait, on a voulu rendre compte de différentes situations pour justement révéler un contexte alarmant. Donc, il y a 9 écoles qui sont des maternelles et des primaires, 2 collèges, un lycée situé dans les Bouches-du-Rhône. Mais ce ne sont que des exemples, on aurait pu en donner plus. On a voulu, dans ces exemples, justement souligner le manque d'information du personnel, le manque d'information des élèves, des diagnostics incomplets, voire même absents, alors qu'ils sont obligatoires.
Et la présence de l'amiante, elle est documentée, elle est irréfutable dans toutes ces écoles?
Mais en fait, on sait très bien qu'en France, il y a plus de 70% des écoles qui sont construites avant l'interdiction de l'amiante qui contiennent de l'amiante. Et donc, qui mettent malheureusement en danger eh bien le public, c'est-à-dire des élèves, qui sont quand même des personnes vulnérables, les enseignants, le personnel de maintenance. Et oui, il y a bien sûr des éléments avec des alertes qui ont été faites, des droits de retrait qui ont été réalisés par les enseignants et des réponses beaucoup trop tardive et insuffisante au regard du risque qui est bien présenté dans ce cas de figure.
Vous dites que les responsables concernés n'ont pas pris les mesures qui s'imposent. Quelles auraient pu être ces mesures, justement, Maître Andruf?
Les défaillances, ce sont celles des collectivités, à savoir la mairie, le département, la région, mais également l'éducation nationale. Vous avez une obligation déjà de réaliser des diagnostics techniques amiantes. Dans ces établissements, soit ils sont incomplets, soit ils sont absents. Il n'y a pas d'information du personnel, il n'y a pas d'action justement pour améliorer les conditions de vie au sein de ces établissements. Donc oui, il y a eu une défaillance. Il y a également un déni de la part des collectivités et d'éducation nationale de dire qu'il y a une minimisation de l'exposition à l'amiante pour le personnel enseignant et pour les élèves, alors qu'on a donné des exemples extrêmement prégnants et révélateurs.
Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte finalement? Est-ce que c'est une réparation du préjudice ou est-ce que c'est pour obtenir in fine la rénovation de ces bâtiments et puis des autres, puisque vous dites que ce n'est qu'un exemple?
Oui, c'est déjà face à un déni, face à la gravité de la situation. Les plaignants saisissent de la justice pour mettre fin à cette situation inacceptable et pour être reconnus, pour être entendus, puisque l'amiante dans les écoles, on en parle, mais on ne fait pas grand-chose, on ne fait pas assez. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un ras-le-bol, je pense, de la part des plaignants, que ce soit les associations, les syndicats, les parents d'élèves, pour se faire entendre et pour améliorer, bien sûr, la présence d'amiante dans les écoles et la réduire au minimum.
Merci d'avoir été en direct avec nous dans 13-14. Maître Julie Andreu, je rappelle que vous êtes avocate spécialiste du travail et de l'environnement, en direct avec nous depuis Marseille, où cette plainte sera déposée en début d'après-midi. 7 jours sans s'arrêter et 1300 amendements examinés. Les sénateurs se lancent à leur tour dans le marathon budgétaire, avec à partir de cet après-midi le budget de la sécurité sociale examiné dans l'hémicycle. Le Sénat, dominé par la droite et le centre, reviendra certainement sur la suspension de la réforme des retraites. retraite adoptée par les députés. Et c'est dans ce contexte de discussions budgétaires et de restrictions financières que l'on apprend que la taxe foncière va augmenter pour près de 7,5 millions de logements en France. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Céline.
Augmentation mécanique, hein, explique-t-on au ministère de l'Économie en raison d'une mise à jour des fichiers des logements pour mieux intégrer les critères de confort, l'eau courante, l'électricité, parce que ça joue aussi, Mathilde, dans le calcul de la taxe foncière.
Oui, saviez-vous, Céline, qu'à chaque travaux d'amélioration de votre maison, vous devez prévenir les services des impôts. Car aux yeux de Bercy, un lavabo dans une salle de bain, ce n'est pas deux vasques dans une salle de bain, c'est plus cher. Tout peut jouer donc dans le calcul de la taxe foncière. Or, certaines déclarations en sont restées un petit peu à la cabane au fond du jardin et ils ne paient pas les critères de confort élémentaire comme l'eau et l'électricité. La Direction Générale des Finances Publiques a donc lancé une mise à jour automatique. 7 millions de biens visés sur 72 ne sont pas concernés les logements les plus insalubres. En cas de litige, les propriétaires qui seront prévenus, assure Bercy, pourront signaler les erreurs, si possible d'ici cet été, avant que la taxe foncière reversée aux collectivités ne soit recalculée. Cette remise à plat est sans lien, promet Bercy, avec la nécessité de trouver de nouvelles recettes budgétaires. La mise en conformité n'exclut pas le serpent de mer de la réforme de ces critères devenus standards, l'eau, le chauffage, l'électricité, qui sont jugés quand même très archaïques. Ils datent des années 70, mais cette révision devrait prendre du temps. 2029, regrette la Cour des comptes dans son dernier rapport de janvier.
Merci pour toutes ces précisions, Mathilde Dehimy. On se réserve le droit d'interroger la pertinence de cette mesure dans quelques mois lors d'un point d'étape, a annoncé la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres tout à l'heure. Maud Bréjon, qui a aussi fait savoir qu'il avait été question de lutte contre le trafic de drogue lors de ce Conseil des ministres. Écoutez la porte-parole du gouvernement.
Il a insisté sur la nécessité d'avoir une approche interministérielle, du très local à l'international, et appuyer également l'importance d'une politique de prévention et de sensibilisation, puisque, et je reprends ces mots, c'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafics. Et on ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail.
Voilà, ce sont parfois les bourgeois des centres-villes qui financent le narcotrafic, a donc dit Emmanuel Macron lors de ce Conseil des ministres, selon Maud Bréjon, sa porte-parole, la porte-parole du gouvernement que l'on vient d'entendre. L'exécutif qui attend par ailleurs encore des garanties sur l'accord avec le Mercosur. Le projet en l'état n'est toujours pas acceptable par la France. Voilà la position du gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres. La Commission européenne s'est donnée jusqu'au 20 décembre pour obtenir le feu vert des États européens sur l'accord. Emmanuel Macron avait semblé ouvrir la porte lors de son déplacement récent au Mexique, parlant d'un état d'esprit plutôt positif, ce qui avait provoqué la colère des syndicats agricoles. Emmanuel Macron qui tente de reprendre la main sur le débat politique national avec un déplacement également à Arras, dans le Nord, cet après-midi, pour parler démocratie et réseaux sociaux, comme il l'avait fait à Toulouse la semaine dernière. Deuxième étape d'une sorte de Tour de France, où il rencontre des lecteurs de la presse régionale pour parler de la majorité numérique, de la place des algorithmes, avec un espoir, Julien Nenni, de faire monter le débat et d'organiser un éventuel référendum sur le sujet.
Oui, si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu parler d'un projet de référendum d'Emmanuel Macron, c'est normal, c'est le serpent de mer de son second quinquennat. Sans prononcer le mot, il s'y était même engagé à l'occasion de ses vœux l'an dernier.
En 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants.
Parmi ces sujets déterminants, il y a donc la place des réseaux sociaux dans notre démocratie. Ça fait plus d'un an que le président réfléchit à présenter une sorte de paquet législatif sur le sujet, avec à l'intérieur l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, la chasse aux faux comptes ou encore la lutte contre l'anonymat. À l'Élysée, le débat fait rage en ce moment entre les conseillers du président. Certains plaident pour un simple projet de loi déposé au Parlement, d'autres pour consulter directement les Français. Le référendum a une vraie valeur politique, juge l'un des partisans de cette option au palais, qui voudrait dépassionner son usage, c'est son mot. Mais un autre s'interroge, avec 11% de popularité, est-ce que le président a encore le muscle pour imposer un référendum ? Pour retrouver du tonus, donc, Emmanuel Macron fait son maximum depuis quelques semaines pour faire monter le débat dans le pays. Le chef de l'État tranchera en début d'année prochaine s'il se lance ou non dans l'aventure du référendum. Aucun président ne s'y est risqué depuis celui perdu par Jacques Chirac. C'était il y a déjà 20 ans.
Julien Nelly, service politique de France Inter.
France Inter. Le 13-14. Céline Asselot.
Une nouvelle attaque de grande envergure a visé l'Ukraine la nuit dernière et le bilan s'alourdit d'heure en heure. Au moins 20 personnes ont été tuées à Ternopil. C'est une ville à l'ouest du pays. Une soixantaine d'habitants ont été blessés, dont des enfants, des infrastructures énergétiques et des infrastructures de transport ont aussi été endommagées par ces frappes russes. Cela prouve que la pression sur la Russie est insuffisante, assure Volodymyr Zelensky qui vient d'arriver en Turquie pour des pourparlers destinés à raviver les efforts en vue d'un cessez-le-feu. Le site d'information américain Axios assure que Washington et Moscou préparent discrètement un plan de paix. Information que le Kremlin a refusé de commenter ce matin. Au Liban, le cessez-le-feu, lui, est en vigueur depuis maintenant un an entre Israël et le Hezbollah, ce qui n'a pas empêché l'armée israélienne de mener une frappe hier dans le sud du pays, faisant 13 morts dans un camp de réfugiés palestiniens. Israël assure avoir visé un camp d'entraînement du Hamas, mais le mouvement islamiste palestinien parle de calomnie et assure n'avoir aucune installation militaire dans les camps de réfugiés au Liban. Précision depuis Beyrouth, avec vous Arthur Saradin.
De cette frappe dans le camp de Ain el-Helwe, nous n'avons que quelques vidéos capturées par des habitants. Selon eux, aucun centre d'entraînement du Hamas à cet endroit, seulement un terrain de football couvert où les jeunes hommes tués jouaient un match. L'accès à ce camp, le plus important du pays, est interdit de longue date par l'armée libanaise, impossible donc pour le moment d'y pénétrer. La seule image de l'explosion a été diffusée par l'armée israélienne. Elle nous permet d'identifier le bâtiment via des images satellites. Il est au sud du camp, dans une zone densément peuplée, près d'une mosquée réputée proche du Hamas. Cependant, l'organisation n'a pas encore revendiqué le martyre de jeunes combattants, ce qu'elle fait toujours d'ordinaire. Aujourd'hui, les institutions du camp sont en grève pour protester contre cette attaque inédite, très éloignée de la frontière israélienne. Elle s'ajoute à la liste des violations quotidiennes du cessez-le-feu par Tel Aviv depuis novembre 2024. Selon l'ONU, plus de 108 civils ont été tués au Liban depuis son entrée en vigueur.
Précision depuis Beyrouth de notre correspondant Arthur Saradin. Le groupe Total Énergie devant la justice en Belgique aujourd'hui a signé par un agriculteur belge et trois ONG qui veulent faire reconnaître sa responsabilité dans la multiplication des événements météorologiques extrêmes et les pertes agricoles que cela entraîne. C'est la première fois en Belgique qu'un contentieux lié au climat cible ainsi une entreprise du secteur pétrolier. Restons en Belgique où la Commission européenne est appelée à réagir face à la déferlante de jouets importés d'autres continents, achetés notamment sur les plateformes de vente en ligne et qui ne respectent pas la législation européenne. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
En direct de Bruxelles, selon une étude dévoilée ce matin à quelques semaines de Noël par la Fédération européenne des professionnels du secteur, 86% des jouets contrôlés présentent des risques sévères pour la sécurité et la santé des enfants et c'est 6 points de plus que l'année dernière.
Effectivement, qu'il s'agisse de petits composants ou même de piles que les enfants risquent d'avaler, des dangers de brûlure pour les jouets à batterie, les résultats sont encore plus alarmants que l'an dernier. C'est la Fédération européenne Toys Industry, dirigée par Catherine Van Rett, qui a mené l'enquête.
Il y a aujourd'hui encore beaucoup trop de jouets dangereux sur les plateformes qui sont offerts par des vendeurs des pays tiers. Les règles sont très strictes. Nos adhérents font le plus pour être sûrs que les jouets sont conformes et ne sont pas dangereux. Donc on veut vraiment que tout le monde suive les règles.
Des messages que la Commission européenne est allée porter jusqu'en Chine il y a 2 semaines. La directrice des consommateurs au sein de la Commission, Isabelle Pérignon, faisait partie du voyage.
C'était un message très fort qu'on a eu en Chine auprès des autorités et auprès des places de marché en ligne pour leur dire en fait, voilà, maintenant on a une tolérance zéro par rapport à ça. Et donc ça c'est le dialogue qu'on va continuer à avoir avec les autorités chinoises contre les fabricants ou les places de marché qui ne respectent pas ces règles.
Pour quels résultats s'inquiètent les industriels qui disent avoir retrouvé dans leur enquête annuelle aujourd'hui des jouets défectueux qu'ils avaient déjà repérés l'an dernier.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Et puisque l'on parle de jouets et de cadeaux à mettre sous le sapin, sachez que le secrétariat du Père Noël ouvre ses portes aujourd'hui. 60 lutins employés par la Poste seront mobilisés pour l'aider à répondre aux enfants. 1 million de lettres sont reçues chaque année, service gratuit. Pas besoin de timbre et n'importe quelle adresse fonctionne du moment que vous indiquez Père Noël sur l'enveloppe. l'enveloppe remise. La lettre arrivera bien à destination. Ils augmentent le risque de développer du diabète, de l'hypertension, de l'obésité, voire de la dépression. Les aliments ultra transformés doivent être combattus. C'est le message de 43 scientifiques du monde entier qui co-signent aujourd'hui une série d'articles dans la revue prestigieuse Lancet des aliments. On le sait et on le voit hein, d'ailleurs, qui occupe une place grandissante dans nos assiettes. Il faut dire, Rémi Brancato, on vous retrouve, que les scientifiques qui alertent se heurtent à une industrie surpuissante, des entreprises qui font tout pour promouvoir leurs produits, parfois au détriment de la science.
Oui, c'est l'industrie la plus rentable de l'agroalimentaire. Un chiffre d'affaires passé en 15 ans de 1500 à 1900 milliards de dollars et qui multiplie les pressions sur les gouvernements, détaille un des articles de cette série, et les scientifiques, dont le chercheur en santé publique Philippe Baker de l'Université de Sydney.
Cette industrie dépense des centaines de millions de dollars tous les ans dans du lobbying, ce sont aussi des dénégations, et au Mexique, par exemple, les entreprises ont déposé plus de 50 mises en demeure contre le gouvernement pour contrer la régulation.
L'étude publie ainsi une carte de ce réseau de lobbying qui dessine les liens entre entreprises et groupes d'intérêt, publicitaires, commerciaux et même scientifiques au cœur du dispositif. 8 multinationales, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Danone, Mars, Mondelez, Ferrero, qui influence aussi l'opinion publique. 3 d'entre elles dépensent par exemple 4 fois le budget de l'OMS en publicité, avec aussi des pressions sur les scientifiques, dénonce Mélissa Mialon, co-autrice de cette étude, chercheuse en santé publique à l'INSERM.
On m'a déjà demandé de rétracter des publications. Des collègues reçoivent des intimidations, notamment en Amérique du Sud. Ils sont suivis par des gens en moto et on leur demande d'arrêter leurs travaux. Enfin voilà, on a aussi des agressions quand on mène ce genre de travaux. Et l'industrie agroalimentaire sait que ces produits rendent malade. L'industrie du tabac avait su la même chose avec la cigarette, et ensuite à financer de la recherche sur l'amiante pour montrer que l'amiante était le problème. On est dans le même genre de pratique pour couvrir le fait que c'était la cigarette qui rendait malade.
Et 14 000 chercheurs sont ainsi financés en partie par cette industrie. Pour faire face, la série d'études propose une restriction de la publicité, de la consommation en restauration collective, ou encore de renforcer les taxes sur ces produits.
Rémi Brancato, service Sciences Santé de France Inter. La Belgique, l'Espagne, l'Écosse ont décroché leur qualification. La liste des invités commence à s'allonger pour le Mondial de foot 2026. Et dans cette liste, il y a quelques surprises que l'on va détailler avec vous, Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour.
D'abord parce qu'il y a 48 places cette année contre 32 d'habitude, ce qui profite évidemment de plus petites équipes. Ainsi, le Panama s'est qualifié hier soir, tout comme Haïti. Mais aussi une île qu'on ne sait pas forcément où placer sur la carte, l'île de Curaçao.
C'est vrai que le nom de Curaçao, Céline, est plus connu pour son alcool bleu qui vient de là-bas que pour son influence au nord du Venezuela en mer des Caraïbes ou pour ses talents footballistiques. Et pourtant... Curaçao a fait ça ! Une blue wave est heading to the World Cup ! Ça, c'était l'explosion de joie cette nuit pour les 156 000 habitants de cette île, à peine moins que Grenoble, par exemple. 7 victoires et 3 matchs nuls, l'équipe a préservé son invincibilité, faisant donc de Curaçao le plus petit état de l'histoire à participer à un mondial de football. Alors, c'est un état autonome des Pays-Bas, avec un entraîneur néerlandais, Dick Advocaat, 78 ans, grande expérience, hein, passé par plus de 26 clubs ou sélections, notamment la Belgique, les Pays-Bas ou le PSV Eindhoven. Et depuis un an et demi sur cette petite île, il a fait toute la différence. C'est ce que dit le milieu de terrain Juninho Bakuna sur la BBC.
Sa présence est vraiment importante pour nous. On constate une nette progression de l'équipe dans notre façon de travailler, notre combativité sur le terrain. On a même vu des joueurs encore jeunes qui jouaient pour les Pays-Bas venir jouer pour Curaçao.
Des jeunes qui vivront donc un rêve éveillé l'été prochain. Le Curaçao sera dans le chapeau 4 pour le tirage au sort du Mondial et se frottera donc, c'est inévitable, à de très grandes nations du football.
Bon, ils ont l'air contents, on est contents pour eux, du coup, cette équipe de Curaçao. Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal du service des sports. C'est l'heure maintenant de faire le tour des sorties ciné de la semaine.
Comment est votre blanquette ?
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
On n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
Bonjour Alexis Lemeyer.
Bonjour Céline.
Votre coup de cœur cette semaine est une comédie dramatique intitulée Des preuves d'amour.
Ah, et le film d'Alice Douard nous plonge 10 ans en arrière lorsque la loi Taubira a été votée, permettant aux couples de même sexe d'avoir des enfants.
Il est qui ce bébé ?
C'est moi le papa, ça te va ?
On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil.
Nadia est enceinte et sa femme Céline dépose une demande d'adoption du bébé à venir. Mais pour valider son dossier, elle doit demander à ses proches de rédiger des lettres de recommandation pour prouver qu'elle sera une bonne mère. Dans les rôles principaux, Ella Rumpf et Monia Chokri sont impeccables. La réalisation est au diapason, malgré parfois quelques facilités totalement dispensables. Des preuves d'amour méritent en tout cas largement le détour.
Alors vous avez été moins convaincu, Alexis, par Jean Valjean, nouvelle adaptation au cinéma des Misérables.
J'ai passé 19 ans au bagne. Je m'appelle Jean Valjean.
Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus.
Avez-vous entendu ? Je suis un forçat.
Le réalisateur Éric Bénard s'intéresse ici à une partie seulement du roman fleuve de Victor Hugo, celle qui concerne la sortie du bagne de Jean Valjean, puis sa rencontre décisive avec l'évêque Myriel, alias Monseigneur Bienvenu. Dans le rôle de Valjean, Grégory Gadebois, dans le rôle de Bienvenu, Bernard Campan. Isabelle Carré et Alexandra Lamy complètent le casting de ce drame historique qui tient la route, mais qui manque peut-être un peu de personnalité. La mise en scène est trop lisse, trop classique, et les interprétations sont branchées sur courant alternatif. Reste que cet épisode des Misérables, celui de la lente réhumanisation du bagnard Jean Valjean, est toujours aussi passionnant et émouvant. Le cinéma n'en a d'ailleurs décidément pas fini avec l'œuvre de Victor Hugo, puisque dans un an, en décembre 2026, c'est Vincent Lindon qui interprétera Jean Valjean sur grand écran, cette fois-ci dans un film signé Fred Cavaillé.
On verra ce que ça donne. En salle aussi, Alexis, un documentaire tourné dans la région de Naples.
Pompéi sotto le nuvole, Pompéi sous les nuages, c'est le joli titre de ce film réalisé par Gianfranco Rossi, ours d'or à Berlin en 2016 pour le formidable Fuoco Amare. Rossi s'intéresse cette fois-ci à la région de Naples, du Vésuve et donc de Pompéi.
Procuratore, questa è una mappa di tutti i siti clandestini che stiamo ispezionando. Non solo Pompei.
Ce documentaire en noir et blanc évoque aussi bien la Rome antique et la destruction de Pompéi que l'Italie des années 2020 avec ses pompiers, ses éducateurs et ses dockers. En mélangeant les époques et les enjeux, Gianfranco Rossi nous embarque avec lui dans une méditation sociale et poétique où le passé infuse le présent et même le futur.
Allez, quoi d'autre à l'affiche cette semaine ?
Running Man, le remake par Edgar Wright du film d'action avec Schwarzenegger sorti en 87. Wicked Partie 2, la suite de la comédie musicale avec Ariana Grande dans l'univers du Magicien d'Oz. Et bien sûr, Dossier 137, le nouveau polar de Dominique Moll sur un fond de mouvement des Gilets jaunes, avec Léa Drucker dans le rôle d'une inspectrice de l'IGPN.
Et ben voilà, plein de bonnes idées. Merci Alexis de Meilleur pour aller se réchauffer dans les salles de cinéma. Je crois que c'est vraiment la bonne idée de la semaine. 13h26 sur France Inter. Restez avec nous justement dans la prochaine demi-heure. On va retrouver les prévisions météo de Stéphanie Promantin pour voir ce qui nous attend dans les prochains jours. On accueillera ensuite nos invités pour parler des drones et des survols de sites sensibles qui se multiplient depuis plusieurs mois et des questions que ça pose. Faut-il mieux se protéger? Si oui, comment? Faut-il davantage réglementer? Et vos questions sont toujours les bienvenues. 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Le feuilleton de la semaine nous emmènera sur l'île de Stromboli, au large de la Sicile, son volcan, ses plages de sable noir et ses habitants de moins en moins nombreux, même si certains, on va l'entendre, tentent de faire revivre cette île pas comme les autres. On retrouvera ensuite notre rendez-vous, c'est la France. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour.
De l'hebdomadaire Le 1. Vous allez vous pencher sur la notion même de terrorisme et ses évolutions.
Oui Céline, près d'une semaine après les commémorations des attentats du 13 novembre 2015, j'ai voulu comprendre comment le terrorisme qui trouve son origine dans l'action révolutionnaire est devenu un acte très ciblé contre des personnes emblématiques du pouvoir, de la justice ou du capitalisme avant de frapper aveuglément, de tuer pour tuer des foules indistinctes.
Et puis c'est une chanson, bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Qui est à votre micro aujourd'hui.
L'actrice et réalisatrice Lola Bessis, dont le nouveau film Silver Star sortira au cinéma mercredi prochain. Et avec elle, nous écouterons un titre de David Bowie, un tube, Modern Love.
Merci à tous les deux, je vous dis à tout de suite.
Depuis 2500 ans, les grands courants philosophiques et spirituels du monde s'accordent sur quelques thèmes essentiels qui peuvent changer notre vie.
Frédéric Lenoir.
Dans mon nouveau livre, je vous dévoile ces cinq piliers universels de la sagesse. La connaissance, l'éthique, la présence, l'acceptation et l'amour. Surtout, je montre comment en faire cinq clés qui permettent de se connaître soi-même, de grandir en joie, en sérénité et en liberté.
Les cinq piliers de la sagesse de Frédéric Lenoir, un livre Albin Michel.
Il y a bon plan et bon plan Picard.
Nous avons plus de 25 plats cuisinés Formule Express à vous proposer chez Picard. Voilà qui est très bien, mais lequel choisir ? Et attendez, c'est que le début. Lorsqu'on en achète 3, le quatrième est offert. Voilà qui est très, très bien. Mais encore une fois, lequel choisir ?
C'est déjà Noël chez Picard. Offre valable aujourd'hui et demain sur le produit le moins cher avec la carte Picard et nous. Jamais pareil, toujours Picard. Voir modalité sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
France Inter, partenaire de Dossier 137, un film de Dominique Moll.
Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers.
C'est pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi. Un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball.
Il nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents.
Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez ?
Mais sur les images, on voit pas bien.
Ah bon ? Il me semble au contraire qu'on voit très bien.
Dossier 137 avec Léa Drucker. Actuellement au cinéma, un film France Inter.
16h29, la météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Céline Asso, bonjour à tous.
Les températures vont rester hivernales cet après-midi.
Oui, 3 à 4 degrés sous les normales de saison, avec une moyenne qui certes va de 6 degrés à Reims jusqu'à 15 à Nice, mais qui avec le vent de nord va nous donner un ressenti beaucoup plus froid. Un exemple, 8 degrés à Paris. Avec le ressenti, on est plus sur du 5 degrés. Des températures hivernales qui vont s'installer sur le pays dans les prochains jours. Ça va même baisser encore un petit peu demain. Pour le ciel, soleil voilé du Languedoc-Roussillon à la région PACA. Partout ailleurs, c'est agité. On retrouve la perturbation qui a glissé, qui est arrivée ce matin par les côtes de la Manche, qui a glissé entre les côtes aquitaines et le Grand Est cet après-midi, avec de la neige à basse altitude sur tous les reliefs à partir de 400-600 mètres. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne, nuages, éclaircies, des averses, parfois même du grésil et quelques flocons sur les plaines normandes.
Merci pour toutes ces prévisions. Céline Acosta.
France Inter. Le 13-14. Céline Asselot.
Quel est le point commun entre l'aéroport de Bruxelles ou de Copenhague, le site d'armement Rhinco à Bergerac, en Dordogne, le dépôt de munitions du camp militaire de Neubourg dans le Bas-Rhin? Eh bien, tous ces sites ont reçu la visite ces dernières semaines de drones non identifiés. Les survols illégaux se multiplient en Europe. Les regards se tournent souvent vers la Russie. Et ce matin, la Roumanie, dernier exemple, a décidé de déployer des avions de chasse pour faire face à une nouvelle incursion. Alors, comment se protéger de cette menace? Les drones, objets de plus en plus courants dans le domaine civils, sont-ils en train d'être dévoyés de leur utilisation première? Question au cœur du salon Millipol qui se tient en ce moment à Villepinte, au nord de Paris, consacré à la sécurité intérieure, et question donc au cœur de ce 13-14 avec nos invités. Bonjour Marianne Renaud.
Bonjour.
Vous êtes experte indépendante en aéronautique et en drones maritimes et terrestres, présidente de Kirema International Consulting. Vous accompagnez notamment les industriels dans leur stratégie drone. Bienvenue et bonjour à vous François Bafou.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Bordeaux Techno-Ouest, hein, Technopole, où l'on innove, notamment dans le domaine des drones. Vous nous direz d'ailleurs si la France est en avance ou pas dans ce domaine. D'abord, une question peut-être pour vous, Marianne Renaud. Est-ce qu'on peut dire, là, avec tous ces exemples, et d'autres que je n'ai pas cités, qu'on est dans un moment de bascule?
Alors, oui.
Pas forcément. Je sens votre réponse que c'est pas forcément.
Oui, c'est vrai que la problématique est différente parce que on est dans une zone un peu grise, tant de paix, tant de crise, on va dire. Et donc, des incursions qui, avant, auraient pu sembler être accidentelles, être le fait d'un télépilote qui connaissait pas très bien la réglementation, au final, maintenant, on est obligé de considérer que ça puisse être un acte de déstabilisation.
D'accord, donc c'est délibéré, c'est ça peut-être.
Exactement.
Le changement.
Exactement, ça peut être délibéré. Et donc la problématique, c'est effectivement de protéger un maximum de sites sensibles, mais pas que. Ça peut aussi être, si c'est une opération de déstabilisation, ça peut aussi être avoir pour objectif de perturber et d'inquiéter la population.
On va en parler justement de la manière dont on peut protéger ces sites sensibles, mais un peu la même question pour vous, François Bafou. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est un peu dans un moment où on dévoie l'usage des drones de loisirs, il y en a beaucoup et de plus en plus, et que là justement, ils servent à autre chose?
Alors, pour compléter ce qu'a dit Marianne, les drones effectivement sont faits pour faire du travail aérien ou alors sont des usages militaires. Mais j'ai envie de dire, comme tout appareil, comme mode voiture ou n'importe quel appareil, on peut aussi en faire autre chose. Voilà, donc le fait qu'il y ait actuellement des survols, effectivement, bon, on en parle beaucoup. Je pense qu'il faut aussi faire attention. Il y a aussi des phénomènes aussi de petits malins qui s'amusent à faire des survols.
On va dire ça.
Voilà, c'est un peu comme le phénomène un peu des voitures qui brûlent. On a pendant trois jours des voitures qui brûlent, ça s'arrête, puis devant le quatrième jour, ça continue parce que on le fait, parce qu'on parle de nous, on va dire, aux informations, à la télé ou ailleurs. Donc, effectivement, il faut être, j'ai envie de dire, il faut être prudent. Il ne faut pas non plus céder à la panique. Et après, la lutte anti-drone, je veux dire, est extrêmement complexe. Mais je pense qu'on va en parler, oui, parce absolument. Que c'est un vrai sujet.
On comprend bien que c'est un sujet qui vous occupe. C'est quoi le risque, finalement, lorsqu'il y a un survol? Alors, vous avez raison de poser la question de la publicité que l'on offre à ce type de survol. Mais c'est quoi le risque? On voit que les réponses, en tout cas, des États européens sont très fermes. Je parlais de la Roumanie tout à l'heure qui dit on va déployer des avions de chasse. Est-ce qu'on se dit qu'il y a un risque d'espionnage, Marianne Renaud, ou est-ce qu'on est effectivement uniquement, et c'est déjà beaucoup, dans une entreprise de déstabilisation éventuelle?
Non, clairement, le risque, c'est un risque d'espionnage, mais plus grave, c'est un risque de drones qui peuvent être là pour détruire. Donc pour attaquer
détruire quoi, par
et pour
exemple
détruire. Pour lancer des attaques sur des bâtiments, pour lancer des attaques sur des aéroports, on ne connaît jamais. Enfin, toute la difficulté est d'essayer de comprendre l'objectif de ce survol.
Et on ne le sait pas forcément.
Et on ne le sait pas forcément. Donc, et en plus, il faut les détecter suffisamment en amont, suffisamment tôt, on va dire, pour être à même de déployer la réponse adaptée.
Et est-ce qu'on sait transformer un drone d'usage de loisirs, d'usage civil, pour faire de la cartographie, de la surveillance des feux ou d'autres choses, en quelque chose qui est capable de détruire, François Bafou?
Absolument, et vous touchez du doigt un véritable sujet en ce moment, c'est que beaucoup de jeunes sociétés, de start-up, qu'on accompagne notamment, qui étaient plutôt sur des marchés civils, des applications, agriculture de précision, inspection d'ouvrages d'art et autres, en fait, il est extrêmement facile de faire, on va dire, un pivot et de transformer votre drone en ce qu'on appelle munition téléopéré. C'est pas très compliqué de mettre une charge à l'intérieur sur un drone, même sur un petit drone. Donc, effectivement, il y a des sociétés qui le font de manière volontaire, c'est normal, parce que c'est le business. Il y a une évolution du marché, une filière drone civile qui existe maintenant depuis 20 ans, qui a connu une accélération avec le conflit en Ukraine, et maintenant, on va dire, des marchés défense qui s'ouvrent pour tous les pays, pas que la France, tous les pays européens. Donc beaucoup de jeunes sociétés, finalement, ont muté, pivoté, et de leurs drones, qui étaient dédiés à des applications civiles, et on a beaucoup d'exemples comme ça, ils ont fait, en fait, une mutation, une évolution, ils ont upgradé leur technologie, ou dégradé parfois leur technologie, pour en faire des outils plutôt dédiés, en tous les cas des vecteurs dédiés à des applications défense. Donc c'est assez facile. Mais au-delà de ça, ça veut dire aussi qu'un, entre guillemets, un particulier peut aussi le faire. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir des systèmes, on va dire, efficaces, on va dire, de détection et de destruction.
Parce qu'il y a quelque chose de frappant dans tous ces exemples, en tout cas dans la plupart d'entre eux, c'est qu'on n'a pas retrouvé les drones, on ne trouve pas les auteurs. D'où cette question d'ailleurs de notre auditrice Françoise sur l'appli Radio France. Quel dispositif existe pour pister les drones, pour les retrouver? Est-ce que ça existe d'ailleurs, Marianne Renaud?
Oui, ça existe. Donc en fait, ce qu'on observe, et ce qu'on observe en particulier, ce qu'on observe à Millipol, c'est que l'accent est mis sur la détection. Et la détection, il y a différents capteurs, comme en aéronautique traditionnelle, je dirais. Donc, il y a de l'électro-optique, par exemple, c'est-à-dire et de l'infrarouge, donc émission de chaleur ou électro-optique visuelle, grâce à l'IA, donc qui permet de détecter des faibles signaux, on va dire. Et il y a l'acoustique. La planète est très, très, très grande. Il y a l'électromagnétisme. Donc, il y a énormément de capteurs qui peuvent détecter un faible signal au milieu d'un environnement. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas équiper le territoire français ou le territoire européen de l'ensemble de ces capteurs. Donc, oui, on peut se protéger, mais à condition de vouloir protéger un site particulier.
Oui, c'est ça, faut choisir.
Il faut choisir. Ouais.
C'est difficile, effectivement, de couvrir l'intégralité, même des sites sensibles, François Bafou.
Alors, pour compléter la réponse De Marianne, il faut savoir qu'un drone, c'est pas forcément un très gros engin.
Oui.
Et il a pas besoin d'être très gros d'ailleurs pour faire beaucoup de dégâts. On l'a vu, on le voit sur le conflit en Ukraine. Il faut savoir que le drone a une signature thermique, mécanique ou sonore très faible. Donc c'est difficile à détecter. Et quand vous l'avez détecté, souvent c'est un petit peu trop tard. Il est déjà sur vous. Donc ça nécessite en fait effectivement des technologies spécifiques. Et j'ai envie de dire, à chaque catégorie de site géographique, il faut, on va dire, une réponse en termes de détection. Ça, c'est pas aussi simple que ça. Il faut des systèmes de détection qui soient adaptés à la taille, on va dire, à presque à la mission du drone, et qui soient aussi, on va dire, dégradés, ou en tous les cas, on va dire, positionnés par rapport à un type, on va dire, un type d'équipement, entre une base militaire et une centrale nucléaire.
On ne protège pas de la même manière.
Ville, on ne protégera pas de la même manière. Donc c'est un sujet qui est complexe. On comprend bien que c'est des petits engins, pas facilement détectables. Et en plus, la réponse doit être proportionnée en prix aussi.
Oui, j'imagine.
Parce que c'est un vrai sujet, le prix aussi. Parce que vous ne pouvez pas mettre en place des systèmes qui coûtent 10 millions d'euros pour détruire des drones de, on va dire, 10 000 euros.
Justement, sur ce point, Marianne Renaud, je ne vais pas vous demander de dévoiler des secrets industriels, ni encore moins des secrets défense, mais est-ce que tous les sites qui nécessiteraient d'être protégés le sont à la hauteur de cette menace qui semble être grandissante ?
Alors, en complément, avant de répondre directement à votre question, en complément de ce que vient de dire François, l'IA est importante pour détecter les signaux faibles au milieu d'un environnement. Et j'insiste sur l'environnement. Parce qu'effectivement, en fonction de l'environnement, les signaux acoustiques peuvent être noyés dans le bruit ambiant ou être repérés. Donc en fait, la palette doit être traitée, on va dire, doit y avoir un traitement qui tient compte de l'environnement et donc une sorte d'entraînement de l'intelligence artificielle à l'environnement.
Et est-ce qu'on fait ça bien ? Est-ce qu'on met les moyens à la hauteur des besoins ?
Oui. On met les moyens, tout au moins on essaie, de mettre les moyens à la hauteur des enjeux. Par contre, vraiment la difficulté, c'est d'analyser et de répertorier les sites sensibles et à quel niveau de sensibilité ? Parce qu'on voit bien que certes, un certain nombre de sites sensibles, de bases militaires sont protégés, mais si on s'attaque déjà à un convoi de chars qui se déplace dans une gare, par exemple, il y a eu des survols de drones, ça devient très compliqué.
Oui, bien sûr.
Alors après, quel est l'enjeu du survol ? Enfin, après, il faut toujours un peu relativiser.
Il faut une réponse proportionnée.
Voilà, exactement, il faut une réponse proportionnée.
Et on imagine qu'il y a une course à l'innovation aussi, et c'est votre domaine, François Bafou. Il y a cette question de Benjamin sur l'appli Radio France. Bonjour, peut-on imaginer à l'avenir des drones furtifs échappant à la détection ? Est-ce que effectivement, à chaque innovation de ceux qui conçoivent les drones, il faut une innovation de ceux qui conçoivent les moyens de protection ?
Alors, la filière drone, de manière générale, c'est une filière que j'aime beaucoup parce que c'est une filière qui en perpétue l'innovation. On peut prendre en Ukraine, il y a toutes les trois semaines un nouveau type de drone. Ce qui d'ailleurs minimise considérablement l'action de l'IA, parce que l'IA, ça marche avec de la donnée. Donc quelquefois, l'IA, elle ne connaît plus le type de drone qui arrive. Donc malheureusement, ce n'est pas aussi bien que ça. L'innovation, elle est présente à la fois pour le développement de la filière militaire et civile. C'est une perpétuelle innovation, la filière drone. Et donc, la lutte anti-drone, elle s'adapte. Et avec un peu de temps de retard, quand même, faut quand même on relativise. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait au point. D'ailleurs, aucun pays européen n'est encore au point. C'est pour ça que c'est un vrai sujet que les pays, d'ailleurs, se sont réunis pour mettre en place une réponse.
Mais la France, comment elle se situe justement ? Est-ce qu'elle est plus en avance ou pas forcément ?
Non. Il y a un général dont je ne citerai pas qui a dit une phrase très juste. Il a dit c'est le glaive contre le bouclier. Pour l'instant, c'est le glaive qui l'emporte. Il a parfaitement raison. Pour l'instant, la réponse de la lutte anti-drone, elle n'est pas au niveau des innovations technologiques qu'il y a dans le domaine des drones. Et on le voit très bien sur le théâtre de l'Ukraine. La furtivité des drones, ça viendra. Ça viendra parce que, de toute façon, l'innovation, elle est continue. Et je suis optimiste de nature, je pense que la réponse, en tous les cas, la lutte anti-drone, va rattraper, et j'espère que le bouclier va arriver au niveau du glaive.
Est-ce que on pourrait pas, alors la question peut paraître un peu bête et méchante, est-ce qu'on pourrait pas les détruire tout simplement? Au Royaume-Uni, en Allemagne, je vois que les gouvernements ont autorisé désormais les forces armées à abattre les drones qui survolent des bases militaires. Est-ce que ça peut pas être tout simplement la solution? Ou est-ce que c'est risqué aussi, Marine Renaud?
Oui, oui. Alors c'est une vraie question et à laquelle les autorités réfléchissent. Hein. C'est vraiment la délégation d'autorisation de détruire. Et là aussi, donner une délégation nécessite de donner une délégation dans un milieu donné.
Oui.
Parce que si on détruit le drone, il ne faut pas qu'on crée plus de dommages que
qu'il
si
en
on
aurait créé en survolant.
Voilà,
bien sûr.
Exactement. Donc, c'est toujours très délicat, mais encore une fois, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en France aussi, on réfléchit, les autorités réfléchissent à qui peut-on donner les délégations, dans quel cadre et pourquoi faire. Mais ils se rendent bien compte qu'il faut bouger à ce niveau-là. Ensuite, à Milipol, ce qu'on observe beaucoup, et je trouve que c'est vraiment l'avenir, ce sont vraiment des systèmes complexes de détection avec des capteurs différents, de l'intelligence artificielle et des déflecteurs, c'est-à-dire des moyens de neutraliser ou de détruire les drones, adaptés à la caractéristique et au type de drone. Et là, ça devient éminemment complexe. Et ces innovations-là, on le voit sur des sociétés françaises, on les voit beaucoup également sur des sociétés européennes qui sont en lien direct avec ce qui se passe en Ukraine, soit parce qu'il y a des coopérations entre les sociétés, soit parce que les dirigeants, parmi les dirigeants, on trouve d'anciens militaires ukrainiens ou des militaires actuels ukrainiens. Donc c'est vraiment l'innovation est vraiment autour de ça dans la lutte anti-drone.
Rapidement pour terminer, François Baffaud, est-ce que ça veut dire de ce que on peut comprendre des propos de Marianne Renaud que c'est un marché florissant et qu'il faut continuer à innover et à mettre les moyens à investir finalement en France?
Absolument. Moi, si j'en prends l'exemple du salon UAV Show qu'on a organisé à Bordeaux il y a un mois juste, on avait plus d'une dizaine de sociétés qui étaient présentes, dont le business c'était le développement, en tous les cas, la création de nouveaux systèmes de lutte anti-drone. Il y a plein de sociétés, on avait du canon, du laser, on a aussi du drone contre du drone, une société comme Aerix, qui est chez nous dans notre incubateur, qui a développé un drone pour lutter contre d'autres drones. Donc on a différents systèmes, il y a le brouillage aussi, donc c'est l'innovation, parce que qui dit brouillage, dit aussi la possibilité de brouiller aussi des avions et d'autres systèmes. Donc l'innovation, effectivement, on a du business à venir et on a beaucoup, beaucoup de développement.
On comprend qu'on n'est qu'au début, en tout cas.
Absolument, absolument.
Merci à tous les deux pour votre éclairage, Marianne Renaud, François Baffoud. Merci d'être venu dans le studio du 13-14.
Merci.
Et nous passons la semaine dans l'ombre d'un volcan sur l'île de Stromboli, au large de la Sicile, petite île qui a inspiré le cinéma, on le sait, qui vit désormais du tourisme et où les habitants sont partis les uns après les autres. Les activités traditionnelles, l'agriculture, la pêche ont peu à peu disparu. Mais certains tentent de remettre de la vie au pied de ce volcan. C'est le cas de cette photographe originaire de Toscane, Chiara Indelicato, qui s'y est installée il y a quelques années. Reportage Adrien Serrière.
On les regarde bien, ils occupent la plupart de l'espace. On en voit que le sommet, on n'a pas vraiment notre place ici. Hein. On a une chance innée tant que ça dure. Ce qui m'attire, je pense, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est cette force un peu magnétique qu'il y a les volcans sur des personnes plus que sur des autres, j'ai l'impression. Alors, moi je m'appelle Chiara Indelicato, je suis une habitante de l'île, je ne suis pas née ici, mais j'habite ici depuis quelques années. Je suis artiste, photographe, je mélange beaucoup l'écriture et la photographie, on est au port. Moi je suis comme d'habitude sur le point du départ. C'est la fin de la saison, il y a les derniers touristes, très peu de monde, assez tranquille. On a une petite tempête qui arrive, j'espère, c'est toujours très intéressant de les voir. Et tout va bien. Être dans un endroit très petit, avec, ce n'est pas plus facile de vivre ici, c'est juste différent. Et j'ai l'impression que désormais, c'est toujours la même chose de vivre n'importe où, dans une grande ville ou dans une ville tout court. Quand j'ai décidé de rester ici, c'est parce que ça me donne un bonheur incroyable. Et aussi parce que c'est l'endroit le plus difficile où retourner. Ce n'est pas facile de faire des allers-retours toute l'année. Ce n'est pas facile de quitter l'île, c'est toujours un peu... les retours sont toujours beaucoup plus intéressants. Le premier projet que je viens de sortir, qui s'appelle Pelle di Lava, c'est un livre dont j'ai décidé de faire parler les volcans afin qu'ils puissent s'exprimer de son point de vue, bien sûr à travers moi, mais sur des problèmes écologiques, sur des problèmes géologiques, sur des problèmes hydrogéologiques dont on parle mais jamais suffisamment et qui nous ont causé pas mal de soucis en fait sur cette île dans les dernières années. Et c'est des images les images du volcan sont très rares. C'est parce que c'est souvent les volcans qui parlent. Et c'est les volcans qui regardent. Il y a des études de la roche, de la noirceur de la roche, de comment on fait pour, en fait, parler à travers sa peau. C'est ça l'intérêt, en fait. On ne comprend pas un volcan. Nous, la plupart, on le connaît de loin. C'est juste une présence. Pour moi, c'est un ami. Mais c'est aussi l'ami qui nous héberge. Je n'arrive pas à les voir comme un ennemi. Peut-être que je n'ai pas vu le pire des actions qu'il peut avoir. Mais c'est quelque chose qui change, qui parle, qui respire. Ça nous arrive à tous assez souvent de l'entendre de la maison, d'entendre l'air qui se déplace. Moi, je l'appelle présence parce que c'est la première personne qu'on voit, c'est la dernière à laquelle on dit au revoir en partant. Je pense que c'est la sensation qu'on garde le plus sur nous quand on part. Je pense que être à côté de ces volcans, pour moi, c'est aussi... J'ai appris à écouter les silences et à l'interroger, et les silences sont capables de répondre surtout.
Au pied du volcan Stromboli, notre feuilleton signé cette semaine Adrien Serrière avec Vincent Godard à la réalisation.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France, c'est le mercredi, c'est avec vous, Eric Fotorino du 1 Hebdo. On a vécu un moment d'émotion collective avec les commémorations du 13 novembre 2015. Que peut-on dire, Eric, de cette notion même de terrorisme et de son évolution dans le temps ?
Alors Céline, c'est à Raymond Aron que nous devons la définition la plus forte, car sans doute la plus juste, du terrorisme. Le philosophe disait en substance que peut être désigné comme terroriste une action dont l'impact psychologique dépasse de beaucoup les effets physiques. Le terrorisme vise les esprits et les volontés. C'est son objectif, a pu ajouter un de ses grands spécialistes, aujourd'hui disparu, Gérard Chalian. La rumeur du choc à venir doit elle-même participer à la terreur. Il est troublant d'observer combien le terrorisme a changé de visage et de cible au cours du temps, pour poursuivre son but de frapper les esprits en frappant les personnes. On pourrait d'abord trouver les racines du terrorisme dans la fatalement et bien nommée terreur de 1793, cette période où Robespierre avance la guillotine pour éliminer ses adversaires, les tièdes de la Révolution, avec cette phrase restée de sombre mémoire, « Le peuple mérite la protection, les ennemis du peuple ne méritent que la mort ».
Et vous voyez là, Eric, les racines du terrorisme ?
Oui, Céline, encore que ces crimes étaient commis par les révolutionnaires au nom de la liberté et de l'égalité, ce qui était le cadet des soucis des tueurs du Bataclan. Mais au XIXe siècle viendra le terrorisme anarchiste, concomitant de l'invention et de la production industrielle de la dynamite. Ce terrorisme, d'abord russe, est ciblé. On se souvient des protagonistes des Justes de Camus, qui hésitent à accomplir leur projet d'attentat contre un despote, le grand-duc Serge, quand ils apprennent qu'il sera accompagné dans sa calèche par son neveu et sa nièce. Ce terrorisme ciblé frappera au XXe siècle, avec la bande à Bader, les brigades rouges, qui tueront des patrons, des magistrats, des policiers, des responsables politiques comme Aldo Moro en Italie et inspireront en France le groupe Action Directe qui assassina le général René Audran, puis le patron de la régie Renault Georges Besse au milieu des années 80.
Et en quoi le terrorisme islamiste se distingue-t-il du mode opératoire de ces groupuscules ?
Sous couvert d'agir pour la grandeur d'Allah, c'est un terrorisme qui tue indistinctement, y compris d'ailleurs des musulmans. On pourrait le rapprocher des crimes contre les civils pendant la guerre d'Algérie lorsqu'aux attentats de l'OAS, favorables à l'Algérie française, répondaient les attentats du FLN au nom de l'indépendance. Mais nous étions dans une guerre de libération, pas dans des actions terroristes motivées soi-disant par une cause religieuse supérieure, comme dans les attentats de janvier et de novembre 2015. Pour retrouver la singularité poignante de ces moments. Je vous recommande la série Des Vivants, réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, qui montre avec une vérité sidérante le calvaire de quelques rescapés tentant de vivre après l'attentat, ou de lire le magnifique récit Terrasse ou notre long baiser si longtemps retardé, signé Laurent Godet.
Merci pour ces conseils, Eric. Un mot de ce qu'on en trouve cette semaine dans le 1 Hebdo.
Oui, nous abordons un sujet crucial pour nous tous, citoyens, médias. Comment préserver notre attention, notre capacité à nous concentrer pour réfléchir dans un monde qui accélère et fragmente nos esprits entre réseaux sociaux et poussées invasives de l'intelligence artificielle. Le titre de ce numéro du 1, la bataille de l'attention.
Et nous sommes tous concernés. Merci Eric Fotorino. De C'est la France à C'est une chanson, et c'est l'actrice et réalisatrice Lola Bessis que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Lola Bessis, dont le deuxième film en tant que réalisatrice sortira le 26 novembre. Un road movie entièrement tourné aux États-Unis dans lequel on suit les aventures de deux héroïnes qui glissent progressivement vers l'âge adulte. Elle l'a réalisé avec Ruben Amar. Son titre, c'est Silver Star. Et c'est une star qu'elle a souhaité que l'on écoute. Il s'agit de David Bowie et son tube Modern Love que Lola Bessis associe tout d'abord à des souvenirs de cinéma.
Elle a été utilisée dans plein de films, à commencer par Mauvais sang, les Oscarax, avec une performance légendaire de Denis Lavant. Enfin, c'est un long travelling qui s'arrête jamais, une course sans fin. Donc ça, c'est vraiment des images et des sons qui m'ont vraiment marquée. Et plus récemment, Frances Ha, qui est pour moi le film indépendant américain qui m'a marquée dans ces dernières années, de Noah Baumbach avec Greta Gerwig, qui représente vraiment ce que j'aime du cinéma indé américain, c'est-à-dire un cinéma d'auteur qui a une profondeur, qui a une esthétique et qui en même temps fait du bien. Et qui rend hommage à cette chanson et même à cette séquence de Mauvais sang. Du coup, oui, je l'associe beaucoup au cinéma.
Et c'est en 1983 qu'est sortie cette chanson, que dis-je, ce tube de David Bowie, Frédéric.
Oui, sur son album Let's Dance. Et Lola Bessis peut difficilement s'empêcher de danser quand elle entend cette chanson, même si le texte n'est pas particulièrement joyeux.
Quand j'étais jeune et que j'écoutais cette chanson, je ne faisais pas vraiment attention aux paroles. Mais je ressentais dans la rythmique tout ce qu'en fait les paroles disent, c'est-à-dire que c'est une chanson en apparence très entraînante, très joyeuse, mais on sent musicalement la mélancolie et ce qu'il y a derrière. Quand on regarde les paroles, en fait, ça parle de quelqu'un de désabusé, qui croit plus en rien, qui trouve que le monde va à sa perte, que les gens n'ont plus de valeur. Il y croit pas, mais il essaye. Il dit « I try », parce que, en fait, il n'y a que ça à faire. Et donc cette chanson, elle me stimule beaucoup avant un tournage, par exemple, ou une épreuve. Je l'écoute et je danse souvent chez moi, pas dans la rue, en fait j'ai jamais fait. Mais voilà, ça me met de bonne humeur, ça me motive et je l'ai même mise à mon accouchement, entre autres, hein, j'avais une playlist pour le coup. Mais ça m'a stimulée, ça m'a motivée, c'était « tu peux le faire ».
Votre enfant est né sur cette chanson-là ?
Il n'est pas né sur cette chanson-là, ce serait vous mentir de vous dire ça. Je crois qu'il n'y avait plus de musique et il y avait juste plein de lumières blanches partout. Mais en tout cas, il l'a entendu. Je pense que ça lui a donné de la force à lui aussi, parce qu'on a combiné nos forces pour qu'il vienne au monde et... On lui demandera plus tard si cette chanson lui rappelle des souvenirs.
Est-ce que finalement, ce que dit cette chanson-là, c'est pas tout simplement « j'essaye d'être heureux » et si ça marche pas, j'aurais essayé ?
Oui, pour moi, c'est essayer d'être heureux et essayer de vivre tout simplement. Je pense que quand on a des moments difficiles, on peut être tenté de rester dans son lit, de rien faire et de se laisser mourir. Mais en fait, je trouve que quand l'esprit se laisse mourir, bah le corps, il est pas d'accord, il réagit, il est là. Et je trouve que cette chanson, elle dit ça aussi, c'est qu'en fait, on est obligé d'accompagner son corps et de vivre et d'essayer du mieux qu'on peut.
Vous
vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de baisser les bras ?
Bah, par moments, oui, comme tout le monde. Hein. Il y a des moments où, en plus, bon, le cinéma, je vous apprends rien, c'est un peu un miroir grossissant de la société. Donc, en fait, toute cette crise de valeur dont peut parler Bowie dans sa chanson, il y a ça fois 10 dans le cinéma, enfin, des problèmes d'égo, des gens qui n'ont pas vraiment de moralité, de ça, on en croise tout le temps et à ces moments-là, on a envie de tout laisser tomber. Mais en fait, non, la vie, elle vaut toujours le coup d'être vécue. Il y a toujours des bonnes choses, il y a toujours des choses à prendre dans toute situation. On peut se relever, on peut apprendre de ses erreurs et avancer, continuer de courir, de danser. Et de vivre.
Cette chanson, elle vous donne envie de continuer à courir et de vivre ?
Ah bah oui. Pour moi, c'est une chanson de vie. Et en même temps, je peux pas y penser sans avoir un petit pincement au cœur. Il y a un truc de mélancolie et de vie en même temps.
D'accord, ça donne envie de danser. Modern Love de David Bowie, c'était donc Frédéric, le choix de la réalisatrice Lola Bessis.
Lola Bessis, dont le nouveau film Silver Star sortira dans les salles mercredi prochain.
Merci Frédéric Pommier. Les infos à suivre.